Radio Barque 24e, notre troisième partie où nous retrouvons donc Didier Codorniou. Alors je le disais en introduction tout à l'heure, vous êtes depuis longtemps maire de Gruissan, mais vous êtes depuis quelques mois un des vice-présidents de la Grande Région. Vous étiez d'ailleurs déjà vice-président précédemment, mais là ça va changer de dimension, ça va probablement changer aussi d'orientation, encore que vous gardez, Didier Codorniou, tout ce qui touche à la mer, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, Jean-Claude. En fait, ma délégation concerne principalement ce que j'appelle communément la croissance bleue. En fait, c'est l'économie maritime littorale et également les aéroports que vous avez oublié tout à l'heure. Je me permets d'en reparler parce qu'en fait, les aéroports comme les ports sont des moyens de structurer le territoire, d'avoir des connexions et bien sûr de développer une activité économique extrêmement puissante puisque donc sur les aéroports, je vais donc m'impliquer sur les 10 aéroports de la grande région, et également sur l'ensemble de la Méditerranée, sur l'ensemble des stations, mais également des ports de commerce de cette belle et grande région.
Alors ça va être l'essentiel de cette interview. Un petit mot quand même toutefois de politique, puisque vous êtes responsable du PRG, auquel vous avez adhéré il y a un an un peu plus, pour lequel vous avez fait campagne d'ailleurs au niveau des régionales, et que vous êtes en train de développer dans ce département. Alors un certain nombre de ce que vous appelez des cercles sont déjà installés. Je crois qu'ils s'en installent encore récemment à Lézignan. Il y en a un qui est en train de se mettre en place, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. En fait, comme je vous avais dit la dernière fois lors de ma dernière interview, nous structurons le territoire du département de l'Aude. Bon, moi, j'ai pris une responsabilité au niveau du PREG de la Grande Région où je préside le groupe des 17 élus. Mais notre volonté, c'est de bien structurer le territoire de l'Aude où il y a des endroits où nous ne sommes pas présents. Donc c'est le cas de Lézignan, c'est le cas de Cassé-Nodary, c'est le cas de Limoux. Et même si Limoux, nous avons une structure, mais qu'on souhaite élargir et agrandir donc fortement, ça fera partie d'un deuxième temps, mais également au niveau du PRG, bon, c'est une annonce, nous allons créer donc le Grand Sud qui sera calqué sur la Grande Région. Donc c'est nouveau et donc ça fait partie des statuts du PRG national et je pense que nous devrions créer donc ce mouvement, cette structure de Grande Région le mois prochain.
Donc vous allez prendre la présidence ou c'est ce qui est prévu, non ?
Non, c'est pas moi qui prendrai la présidence, j'ai suffisamment de responsabilités au niveau du PRG. Non, ça fait partie de la consultation que nous ferons avec Sylvia Pinel qui, je vous rappelle, donc est la présidente par intérim du Parti radical de gauche et qui a donc remplacé Jean-Michel Baillet qui est devenu ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.
Bon, alors voilà pour la politique et votre implantation sur laquelle que vous surveillez, on s'en doute, avec beaucoup d'intensité et de précaution. Alors revenons maintenant donc sur votre vice-présidence de la région. Donc vous avez la mer mais aussi l'air, vous l'avez rappelé. À propos justement des aéroports, 10 aéroports, vous parlez de la région?
Oui, ce sont 10 aéroports, deux aéroports dont on parle souvent, l'aéroport de Toulouse, Toulouse-Blagnac, et celui de Montpellier. On en parle souvent parce que, bon, à travers des interventions des directeurs, enfin, le directeur de Montpellier qui demandait donc de regrouper donc un seul aéroport entre Nîmes et Béziers, mais ça le regarde. Et puis, on en parle beaucoup aussi, c'est l'aéroport de Toulouse-Blagnac, où, comme vous le savez, donc, ce sont des Chinois qui ont investi donc fortement 400 millions d'euros et donc la région avec la CCI, avec les collectivités, nous sommes dans au niveau du directoire et nous avons une réunion avec Madame Hydrac qui est la présidente du directoire la semaine prochaine pour donc parler de stratégie d'organisation et je ne sais pas si vous le savez aussi, donc il va y avoir des premiers charters qui vont être organisés, qui vont arriver sur Toulouse, donc charter à partir de Pékin-Toulouse, qui pour notre région vont apporter une attractivité extrêmement importante.
Oui, alors première retombée de cet investissement chinois sur Blagnac.
Oui, tout à fait. Et puis, si on anticipe même la deuxième année, 2017, il y a donc prévu, dans le cadre du plan stratégique, une connexion vers les États-Unis, New York, donc New York-Toulouse. Et puis, si on va encore plus loin, donc on parle de Dubaï. Là aussi, on va être sur un territoire extrêmement attractif. Et vous comprenez très bien que sur les politiques touristiques, avec notamment les tours opérateurs, ça s'organise et il est important entre les airs et la mer de pouvoir organiser ce territoire. Je reviens sur Sète, par exemple. À partir de l'an prochain, nous allons avoir des croisiéristes qui vont arriver avec un certain nombre de bateaux, de paquebots importants, parce que là je parle de entre 2000 et 3000 passagers qui vont arriver par les mers et organiser aussi donc les visites sur notre grande région, avec bien sûr les grands sites historiques et les opérations, enfin ce qu'on appelle les opérations grands sites, mais l'attractivité donc qui passe par le bien vivre chez nous, donc au niveau de la Méditerranée, de la grande région.
Alors on va revenir sur la mer, bien entendu, cela va de soi, vous êtes maire de Gruissant, je le rappelle, mais à propos encore un dernier mot sur les airs et les aéroports. Il y a quelques jours à peine, j'apprenais que le maire de Perpignan, Jean-Marc Pujol, rouspétait en quelque sorte parce qu'on baptisait son aéroport, celui de Perpignan, Sud de France. Et il disait, Sud de France, je ne sais pas où c'est, je veux que l'aéroport s'appelle Perpignan-Rivesaltes. Que pensez-vous de ça ?
Oui, déjà, le maire de Perpignan, quand il dit « je ne sais pas où c'est », je comprends, il ne vient jamais au conseil d'administration et aux réunions donc de cet aéroport.
Donc c'était peut-être un geste de mauvaise humeur,
peut-être. Oui, je pense que c'est beaucoup plus une posture politique que sur une démarche de structuration des territoires. Dans cet aéroport, investissement de 50 millions d'euros porté par la collectivité régionale. En termes de trafic, on est donc sur du 400 000 passagers. Nous réfléchissons aussi pour apporter des lignes nouvelles non, tout simplement, je crois qu'il y a des postures dans la vie, mais il y a aussi des faits, des actions. Je crois que la vie politique demande donc un peu plus d'action, un peu plus de concrétisation et d'arrêter. Donc j'ai lu effectivement son article, j'étais prêt à lui répondre. Vous me posez la question, donc je pense que M. Pujol devrait venir, devrait être beaucoup plus assidu sur des réunions au niveau de l'aéroport de Perpignan.
Mais alors, ce Sud de France, c'est quoi ? C'est un label qui est donné à ces aéroports ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est vrai que c'est l'ancienne marque de la région Languedoc-Roussillon. La question qu'on peut se poser, c'est de voir si cette marque-là va durer temps aussi.
La question reste d'actualité. Voilà. Carole Deliga, la présidente, donc, a été très très claire. Sud de France, on maintient. Et nous allons voir donc comment l'autre marque Sud-Ouest de France déposée, on arrive donc à avoir une certaine complémentarité. Les aéroports, quand ils ont été débaptisés, donc on était sur l'ancienne région, Languedoc-Roussillon, en termes de destination, nous communiquons fortement avec une marque, Ombrelle, Sud de France, et il était tout à fait logique et cohérent que les deux aéroports, d'ailleurs, de Carcassonne et de Perpignan, donc s'appellent donc les aéroports Sud de France.
C'est une marque Ombrelle.
C'est une marque Ombrelle.
Alors revenons à la mer, justement. Vous êtes toujours, je crois, président du Parlement de la mer, une institution qui avait été fondée par la précédente région. Ça existe toujours, Didier Codorniou.
Oui, alors le Parlement de la mer, donc, existe toujours. J'ai comme mission de la présidente de mettre en place un nouveau fonctionnement du Parlement de la mer, donc l'acte 2, qui continuera d'être une instance de concertation. Je vous rappelle que nous fédérons la communauté maritime, pratiquement un millier de personnes qui sont associées sous une forme de forum, mais également donc d'avoir des actions un peu plus concrètes. Derrière le Parlement de la mer, l'objectif, c'est de créer une direction régionale de la mer, qui a été validée d'ailleurs par la présidente. Alors, cette direction verra le jour soit en septembre 2016, soit au 1er janvier 2017. Nous travaillons sur la structuration du Parlement. Nous travaillons également sur le plan littoral 21 dont vous avez parlé tout à l'heure. Ce plan littoral 21, en fait, c'est tout simplement une politique intégrée, donc mer et littoral, qui doit répondre aux objectifs de la croissance bleue, trois objectifs, donc le développement économique, les enjeux environnementaux et les enjeux identitaires. À partir de ces trois enjeux, donc, nous allons construire une vraie synergie entre mer et terre et comment ce plan littoral 21 pourra accompagner l'ensemble des stations du littoral, donc, mais également des ports de commerce. Donc c'est toute une belle ambition. Et au niveau de la Méditerranée, de la mer, c'est aussi de créer un modèle économique inégalé, parce que je rappelle que la croissance bleue, sur le plan national, on parle de 67 milliards d'euros, avec donc des enjeux liés à la biodiversité. Je veux parler de l'environnement, donc c'est... je crois que vous le savez, donc nos côtes sont très touchées par l'érosion. Il faut savoir que sur des départements comme l'Hérault et comme les Pyrénées-Orientales, il y a des plages qui ont perdu pratiquement un mètre de plage par an. C'est énorme et ça doit nous interpeller. Donc l'urbanisation, le devenir des stations du littoral, plan racine 2, comment ce plan littoral 21 répond à l'attente des élus locaux.
Oui, pour les jeunes qui ne savent pas, le plan Racine 1, c'était l'aménagement du littoral dans les années 60, c'est bien ça?
C'est ça, les années 60-70, et ça a permis de créer des stations du littoral au nombre de 7, et toute la politique donc touristique s'est développée autour de ces stations. Les stations aujourd'hui sont assez dégradées et ont besoin d'être aidées, mais aidées massivement. Donc quand on parle de plan littoral 21, c'est un peu comme le plan Marshall qu'a lancé la présidente, donc le plan Marshall pour le bâtiment, 800 millions d'euros, pour bien démontrer que la nouvelle région n'était pas à une période de transition, mais qu'elle était vraiment dans le dynamisme pour accompagner les PME, les PMI. Donc c'est un peu le travail qui est en train d'être fait actuellement.
Alors Didier Codorniou, vous évoquiez tout à l'heure un fait précis, c'est l'arrivée prochaine sur laquelle vous travaillez de gros navires de croisière à 7. Je crois que vous avez d'autres ambitions également pour 7 concernant ce Parlement de la mer et votre vice-présidence.
Oui, sur 7, donc il y aura prochainement l'inauguration de la maison de la mer, alors maison du Parlement, donc en fait le nom n'a pas été encore trouvé, et donc et là je le laisserai bien sûr la présidente de nous le proposer, pour que ce bâtiment, en fait, ce vaisseau, accueille l'ensemble de la structuration liée donc à la croissance bleue, le Cépralmar, à l'occurrence, donc le...
Alors le Cépralmar, un mot d'explication?
Oui, alors le Cépralmar, donc on est sur une association qui, on est sur les lagunes, on est sur l'expérimentation, sur la recherche, donc qui fédère donc l'ensemble des scientifiques, on accompagne les pêcheurs,
C'est un outil d'intervention.
Aujourd'hui, il y a 7 personnes qui travaillent donc au niveau du Cépralmar. Cet organisme va être donc était un peu en stand-by aujourd'hui, puisque les élections et les organismes extérieurs n'ont pas été, les personnalités qualifiées n'ont pas été désignées. Elles le sont. Je pense que c'est aussi la semaine prochaine ou la semaine d'après où on mettra en place l'organisation, la structuration. Le nouveau président sera André Lubrano, qui est un Cétois, et également dans cette maison, on y verra tous les services de la future direction régionale de la mer, et on pourra donc se réunir régulièrement dans cette structure, mais surtout donc en dehors des réunions, d'être très efficace sur l'action. Parce que comme vous le savez, moi ce qui m'importe quand nous sommes élus, c'est de faire et c'est de dire ce que l'on fait.
Alors, Sète est un des grands ports de la Méditerranée de notre région. Il y en a d'autres, et il y a notamment Port-la-Nouvelle, qui est plus proche de nous. Il y a depuis plusieurs années, un grand plan d'extension et d'approfondissement de ce port. Quel est votre projet là-dessus et comment vous voyez cet avenir? Parce que certains semblent en douter.
Oui, alors c'est toujours... quand on parle... depuis très longtemps de ces projets, que les travaux ont démarré depuis peu. Bon, c'est vrai qu'on se dit, mais comment, mais vous savez, la complication aussi administrative, les études, les enquêtes, ça demande un certain temps. Aujourd'hui, le grand port de Port-la-Nouvelle est lancé. Donc, ce qui est lancé, c'est la partie terrestre. La partie, donc, port.
Les docks, l'aménagement de.
L'aménagement des quais, donc le terre-plein. Donc là, on parle donc d'une vingtaine, voire une trentaine de millions d'euros. On est sur 100 hectares. Donc le port est bien lancé et la vision que je porte et qui est partagée par la présidente Carole Dalia, c'est que on doit faire de Port-la-Nouvelle un grand port des Toulousains, lié donc à l'attractivité avec les céréales, bien sûr, les hydrocarbures, mais également l'éolien en mer, offshore. Vous savez que dans le cadre de Denham Aimi, appel à manifestation d'intérêt, il y a deux zones propices où il y aura donc une expérimentation. Nous arrivons donc au fin du processus puisque les candidats vont être désignés fin avril. Et on va pouvoir donc lancer ces prototypes, donc des éoliennes flottantes avec des flotteurs, on parle de 2000 voire 3000 tonnes. Et dans un deuxième temps, on passera à la phase industrielle. Et c'est celle-là qui nous intéresse, bien sûr, les deux nous intéressent. Mais la deuxième phase nous intéresse parce que derrière, c'est de l'emploi non délocalisable. C'est une économie. Et également, à travers les ports, ce qui peut être intéressant, c'est de relancer donc les fameuses autoroutes de la mer avec ce qu'on appelle les colis lourds et des connexions avec Airbus Industrie. Donc comment on peut acheminer des colis lourds du port là aujourd'hui, donc il y a une partie qui se fait par l'océan, notamment par Bayonne, mais on peut aussi envisager ces interconnexions donc de Port-la-Nouvelle via Airbus Industrie, donc pour le développement,
pour acheminer les tronçons, pour acheminer de l'avion, les morceaux de l'avion à assembler à Blagnac.
Tout à fait.
Et à propos de ces éoliennes offshore, donc dont vous venez d'évoquer la phase expérimentale, hein, pour le moment, pas plus, lorsqu'on avait commencé à l'évoquer il y a quelques années, on avait cru comprendre que vous étiez plutôt contre parce que ça gênerait en quelque sorte le look de la station.
C'est ça. D'ailleurs, depuis 14 ans, ce dossier donc est régulièrement proposé aux élus qui étaient complètement contre. D'ailleurs, le maire d'Agde est toujours contre cette nouvelle génération. Et pour en avoir discuté avec mon collègue Monsieur Martin, le maire,
oui,
de
Port-la-Nouvelle,
le maire de La Nouvelle, lui, il est complètement favorable dans la mesure où, comme moi d'ailleurs, on est sur du 15 km au large, donc l'impact visuel ne se voit pas, et on est sur du flottant. Donc ce qui veut dire que également au niveau terrestre, donc l'ancrage ne se fait pas, donc et atteindra beaucoup moins donc notre environnement, parce que quand on parle de l'environnement, c'est la biodiversité, et vous savez que il faut qu'on soit extrêmement prudent sur la fragilité de nos côtes, et même si on est sur du 60-80 mètres de profondeur. Voilà, donc là, on est complètement satisfait de ce projet, et également, bien sûr, on va attendre la phase expérimentale pour anticiper la deuxième phase, parce que derrière, on est dans la politique énergétique, la transition énergétique. Se désengager du nucléaire, c'est bien, mais la réponse, donc, ça sera certainement, c'est ferme.
Ça serait l'éolien. Et alors certains évoquent déjà une autonomie en énergie, par exemple, du département, voire de la région. Est-ce que c'est envisageable ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler d'autonomie, mais ce que je sais, c'est que les deux fermes, donc demain, donc industrielles, pourront avoir un besoin énergétique de 3 millions, pour répondre aux 3 millions d'habitants. Donc, c'est-à-dire la moitié de la population de la grande région. C'est considérable.
Pratiquement, largement l'ancienne région Languedoc-Roussillon.
Tout à fait, ouais. Tout à fait.
Oui. Donc c'est quelque chose qui peut être évoqué. On n'a pas parlé d'un troisième port qui existe et qui a un petit peu périclité depuis quelque temps, c'est Port-Vendres. Quel est le destin de Port-Vendres, qui longtemps fut le port de l'Algérie lorsque l'Algérie était française ?
Oui. Alors bien sûr que dans la réflexion entre sept ans, Port-la-Nouvelle, on pense à Port-Vendres pour essayer de travailler en cohérence et en complémentarité. D'ailleurs, pour revenir très rapidement sur Port-la-Nouvelle, il y a une délégation de service public qui arrive à échéance, donc il est de notre responsabilité de réfléchir comment on peut travailler sur l'ensemble des ports, donc en ayant une complémentarité, mais également d'avoir un libre échange donc sur ces deux marchés qui peuvent être un peu en compétition, mais également donc d'une manière pragmatique et avoir une gestion pilotée par la région avec une certaine dépendance. Donc les outils juridiques existent, on sera amené d'y revenir. Pour vendre, en fait, moi mon idée, c'est propriété donc de la CCI et du département. Donc voilà, donc, nous s'il y a une option pour éventuellement d'acquérir ce port, il est très orienté sur Saint-Charles, notamment les fruits et légumes, mais on a un tirando intéressant pour ce qu'on appelle les petites croisières, donc les petits yachts entre 50 et 80 passagers, tirando de 8,50 m. Donc moi je suis très intéressé de pouvoir essayer de réfléchir comment on peut alimenter toujours Saint-Charles, donc c'est pratiquement un millier de tonnes donc par an, et comment on peut apporter un plus sur le développement touristique, donc avec ces croisières de luxe, que je pourrais dire. Mais après, bon, il faut que les réseaux, bien sûr, soient complètement adaptés, et les quais. Et je sais qu'il y a des ouvrages importants à réaliser à Port-Vendre.
Voilà, mais écoutez, Didier Codorniou, merci d'être venu évoquer alors vos nouvelles responsabilités dans cette nouvelle région, donc qui est en gestation. On l'a évoqué, tout ça prendra un certain temps, mais je vois que vous avez effectivement des projets et des visions très arrêtées. Cela dit, nous souhaitons vous retrouver de temps en temps à ce micro, justement parce que il sera intéressant de mesurer l'évolution de ces dossiers-là. Merci à vous, Didier.
Merci à vous.
Le prochain invité de ce Radio Barque sera Viviane Durand, la maire d'une petite commune de Sainte-Vallière, mais qui est une des vice-présidentes importantes du Grand Narbonne, de la communauté
d'agglomération.
Voilà, puisqu'elle gère les finances. Merci à vous et à la semaine prochaine.
Merci à vous.
À la semaine prochaine.
Au revoir.